La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonsoir à tous et aujourd'hui c'est la journée mondiale sans achat. Aujourd'hui le caddie est devenu un véritable totem dans les sociétés occidentales. Notre niveau de satisfaction dépend généralement de son niveau de remplissage et nous lorgnons toujours avec envie sur les caddies plus remplis que le nôtre. Pour tous ceux qui ont assez de faire partie de cette société de surconsommation, un rendez-vous incontournable, la journée sans achat. La journée sans achat, c'est 24 heures de réflexion sur l'impact social, économique et écologique de la consommation des pays riches sur l'ensemble de la planète. N'oublions pas que 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires. La journée sans achat est le meilleur moyen de s'interroger sur ses actes de consommation. Il est nécessaire de prendre de temps en temps du recul pour réfléchir aux valeurs que nous souhaitons défendre, comme le partage, le respect et la qualité. C'est aussi un instant privilégié pour nous interroger non seulement sur nos droits, mais surtout sur nos devoirs et nos responsabilités. Nous disposons d'un réel pouvoir économique qui peut se transformer en un pouvoir de pression. La décision d'achat ou de non-achat peut donc devenir un acte politique qui contribuerait à changer le système. Consommer autrement, c'est revendiquer sa volonté de voir évoluer les législations, c'est dire oui à une approche éthique de l'acte d'achat, aux alternatives économiques et à une autre gestion de son temps. On nous pousse à croire que surconsommer est notre destinée d'acteur social, notre raison d'être dans la société. D'ailleurs, ne voit-on pas que sont exclus tous ceux qui ne peuvent, comme nous, faire leur shopping hebdomadaire ? Notre vie ne dépend-elle que de la couleur de notre carte de crédit ? C'est une journée symbolique dont le mot d'ordre est de ne rien acheter et de réfléchir à ce que signifie réellement la société de consommation. L'un des deux seuls pouvoirs dont chacun d'entre nous dispose est celui de décider d'acheter ou de ne pas acheter. De nos jours, l'être humain est trop souvent réduit à une seule dimension, le consommateur. C'est de la négation pure et simple de notre humanité. Mais quoi qu'en pensent les multinationales, nous ne nous réduisons pas à un porte-monnaie. Nous avons aussi une dimension spirituelle, culturelle et philosophique qui font notre richesse. Nous avons effectivement des désirs, mais ce n'est certainement pas une quelconque marque de chips, eau de toilette ou de chaussures de sport qui pourra les combler. Et maintenant, le sommaire. Ce soir, dans la matinale, nous recevons nous recevons Laurent Sorel pour évoquer les familles qui campent devant la mairie du 20e. Il sera interviewé par Anya. Le Zoom sera consacré à Awaz Verden qui donne 5 concerts en décembre. Fabrice nous présentera le Flash Info. Julie nous parlera de Zoo Toupi 2 dans la chronique Actu. Et Arthur sera à la chronique libre.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et aujourd'hui, nous recevons Laurent Sorel qui vient nous parler des familles qui campent devant la mairie du 20e. Il est interviewé par Rania. Bonsoir Laurent Sorel. Bonsoir Rania.
Bonsoir.
Et c'est à toi.
Alors bonsoir Laurent Sorel, vous êtes conseiller à Paris,
bonsoir, Rania.
La France Insoumise, et élu dans le 20e arrondissement de Paris.
Alors, je précise que je suis conseiller de Paris, oui, mais je ne suis plus à la France Insoumise. Je ne vais pas développer pourquoi, hein. Je suis à l'après aujourd'hui et je suis suppléant de la députée du 20e, Danielle Simonet. Voilà.
Est-ce que vous voudriez davantage vous présenter peut-être pour les auditeurs ?
Je suis élu dans le 20e arrondissement qui est un arrondissement qui reste encore un peu populaire à Paris, de moins en moins, gentrification comme vous le savez à Paris, mais il y a encore des quartiers populaires et il se trouve que je suis né en Martinique. Je suis arrivé à Paris pour mes études et puis me voilà résident parisien et élu parisien aujourd'hui.
Oui, donc voilà. Paris vous a conquis.
Paris m'a conquis, oui, on peut dire les choses comme ça, oui. Et on n'est pas, je ne suis pas le seul Antillais à être dans le coin.
Alors avant de revenir justement sur cet épisode de campement de personnes exilées sur le parvis de la mairie du 20e, je voulais parler de la nuit de la solidarité. Mmh. Alors plus de 3500 personnes sans abri ont été décomptées en janvier 2025, notamment durant la 8e édition de cette nuit de la solidarité qui s'est déroulée le 23 janvier dernier. Ces chiffres représentent le seuil minimal des personnes à la rue, donc pas la totalité de ces personnes qui sont sans abri. L'événement, il avait pour but de mieux connaître les profils de ces personnes, justement le type d'aide à leur apporter afin d'adapter au mieux les politiques publiques. Que vous inspirent ces chiffres, Laurent Sorel ?
Alors déjà, ce sont des chiffres qui sont dramatiques parce que c'est un chiffre plancher. Ce sont les gens qu'on a décomptés sur la nuit. Et c'est des chiffres qui augmentent de nouveau depuis le confinement, puisque je crois que l'année d'avant, c'était 3492. Donc on peut dire que c'est une augmentation faible, mais c'est une augmentation continue. Alors il faut savoir que ça a baissé pendant le confinement pour une seule et bonne raison, c'est que l'État avait fait le choix d'augmenter les places d'hébergement pendant le confinement, ce qui veut dire que quand on veut, on peut. Voilà. Et que depuis, il y a une volonté assumée de l'État de fermer des places d'hébergement d'urgence. Je crois qu'il y en a eu 900 qui ont fermé cette année. Donc c'est 900 personnes au moins en plus dans la rue. Et ben, ça veut dire des familles, ça veut dire des enfants, ça veut dire des femmes enceintes. Et pas simplement l'hiver. Souvent, on en parle l'hiver, mais c'est aussi l'été. Il faut savoir que les gens qui sont à la rue, ils meurent l'hiver, mais ils meurent aussi l'été. Parfois des chaleurs et puis des maladies. Parce qu'être à la rue, de toute façon, c'est être malade, c'est être exposé à toutes sortes de violences, c'est exposé aussi à la drogue parfois et à toutes sortes de trafics, y compris pour les enfants.
Et donc, justement, vous parlez des places libres qu'il y a eu durant le confinement. Quelle est la raison ?
Alors, l'État a ouvert pour des raisons sanitaires et pour des raisons... probablement d'assistance, parce que pendant le confinement, la vie des personnes à la rue était d'autant plus compliquée, parce qu'elles vivent de solidarité, de ce qu'on veut bien leur donner, et quand il n'y a personne dans les rues, eh bien, elles sont laissées à eux-mêmes, et il y avait moins de disponibilité des associations, des collectifs pour leur venir en aide. Donc ça montre que quand l'État veut, il peut. Alors évidemment, il y en avait quand même à la rue, mais il y en avait moins. Mmh. C'est le seul moment durant ces dernières années où le nombre de personnes à la rue décomptées à Paris a baissé.
Et donc pourquoi l'État a fermé en fait ces places disponibles ?
Parce que l'État considère qu'il faut faire des économies et que eh bien, ces gens n'ont qu'à se trouver un logement par eux-mêmes. Désolé d'être un peu cynique, mais je le pense vraiment. On sait que l'État fait des économies sur tout. Vous, les étudiants, vous en rendez compte. Hein. Eh bien, l'État fait des économies aussi sur les personnes à la rue. Et je suis tenté de penser aussi, malheureusement, que c'est aussi pour des raisons purement cyniques et racistes. Parce qu'en réalité, il faut voir les gens qui sont à la rue. Il y a peu de têtes blondes, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont racisés, il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui viennent d'arriver en France, il y a des gens qui galèrent depuis des mois, des années, l'État considère que ces gens-là, eh bien, ils n'ont qu'à se débrouiller ou alors ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Évidemment, ce ne sera jamais dit comme ça. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une logique raciste aussi derrière.
Et donc, j'imagine que des personnes ont pu avoir une place d'hébergement durant le confinement. Il y en a sûrement qui se sont fait virer par la suite avec la suppression de ces places. Que s'est-il passé la police est venue pour les...
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des centres d'hébergement. Ça peut être dans un centre d'hébergement, ça peut être dans un hôtel. Et en général, vous savez, les gens, ils acceptent. Ils acceptent leur sort, c'est-à-dire on leur dit de partir, ils partent. Alors ils savent évidemment que s'ils ne partent pas, ils peuvent avoir l'intervention de la police, hein, évidemment. Mais ils partent et puis ils se cherchent un bout de trottoir ou un pont ou une bretelle de périph pour se réfugier. Quand on regarde d'ailleurs sur le décompte des gens sur les 3507, de mémoire, je dirais qu'il y en a à peu près 200 qui ont été décomptés dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Mmh. Il y en a peut-être un peu moins de 200 dans les gares parisiennes. Il peut y en avoir 200 dans les stations de métro. Donc on les voit en réalité. Si, enfin, il faut les voir parce que souvent les gens passent sans les voir. Ce sont des êtres humains comme nous et ils sont là. Parfois ils essayent de tendre la main. Mais souvent, ils essayent de se faire tout petits parce qu'ils ont peur de la répression, ils ont peur d'être virés de leur place. Et puis voilà, ils essayent de survivre tant bien que mal.
Vous diriez qu'il y a une certaine invisibilisation de ces sans-abri, une normalité peut-être ? Est habitué à les voir, donc on y prête peut-être moins attention ?
Moi, quand je suis arrivé à Paris, de ma Martinique, alors je suis passé d'abord par le sud de la France pour m'adapter un petit peu à la température, progressivement. mais quand je suis arrivé à Paris, ce qui m'a frappé effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes à la rue. et que je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi les gens ne, que font leur famille, mais pourquoi ils sont pas, je ne comprenais pas, ici je comprenais, mais pas totalement. Je me refusais à comprendre ce que ça signifiait, en fait, tous ces gens à la rue. Mais je sais pas, enfin, il y a quand même une logique derrière qui est une logique de, d'abandon, simplement. De, ce n'est pas la priorité, ça coûte trop cher. Et voilà, bah c'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité. Donc à nous de réagir par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont solidaires, en réalité, beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais la solidarité première, c'est l'État. C'est le boulot de l'État. L'hébergement d'urgence des familles, c'est l'État qui doit s'en occuper. Aujourd'hui, quelqu'un qui appelle le 115, c'est le numéro d'urgence pour les gens qui sont à la rue. Déjà, il faut avoir la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, il y a de moins en moins de possibilités d'avoir quelqu'un au bout du fil. Et aujourd'hui, pour avoir une petite chance, il faut être une femme enceinte à partir de 7 mois ou il faut avoir un enfant de moins de 3 mois. C'est ça, en réalité. Et normalement, ces gens-là sont pris en charge. Normalement. Et même pas tout le temps. Mais quand vous avez un enfant de 5 ou 6 mois, vous n'êtes pas prioritaire. Quand vous êtes une femme enceinte de 4 mois ou de 5 mois, vous n'êtes pas prioritaire. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est ça que les gens doivent savoir.
Oui, donc il y a un certain abandon peut-être de ces personnes et un manque de services, d'aide de la part de l'État également qui n'en fait pas de sa priorité.
Exactement, voilà. Donc après, il y a une responsabilité de l'État, il faut que les gens le sachent. Il y a des associations qui essayent tant bien que mal d'être solidaires. Et puis, il y a des citoyens qui font vivre cette solidarité au jour le jour. Mais évidemment, on ne peut pas se substituer totalement à l'inaction de l'État.
Oui, et comme vous le disiez, ces personnes n'ont peut-être plus de famille ou des situations difficiles. Et donc, du coup, elles essayent de retrouver un sentiment d'humanité, un contact humain avec d'autres personnes dans la même situation qu'eux. Et donc, ça peut créer des groupes, mais peut-être plus susceptibles à des violences.
Alors oui, il y a effectivement, ce sont des gens qui sont sujets à des violences. Il y a des tentatives, évidemment. Il y a des réseaux d'entraide. Il y a aussi une volonté, comment dire, dès que ces gens-là deviennent trop visibles, les gens à la rue deviennent trop visibles, il y a une volonté de l'État, ce que vous me demandiez au début, de les invisibiliser. Par exemple, vous êtes à la rue, vous avez un sac de couchage, vous mettez dans un coin, peut-être que la police peut vous laisser tranquille. Vous dressez une tente, on va vous virer. Le plus probable, c'est qu'on vous vire. Et donc souvent, il y a effectivement des tentatives des associations de rendre visibles les gens invisibles et donc de dresser des tentes dans des endroits symboliques. Ça a été fait par exemple sur la place du Palais Royal à un moment et on s'est retrouvé en prise avec les violences policières. Ça s'est fait à un moment donné sur les bords du canal Saint-Martin à Paris pour rendre visible justement ce que l'État veut cacher. Et bien en général, l'État n'apprécie pas et fait tout pour virer ce qu'on appelle les campements. Mais des campements, en réalité, c'est des lieux de solidarité. Que les gens, il y a des mineurs isolés à la rue aussi qui essayent de s'organiser sur les bords de Seine, au Pont-Marie, que ce soit sur les portes, qui essayent de se regrouper avec des tentes. Mais souvent, ils sont considérés comme trop visibles et donc la police fait tout pour de nouveau les invisibiliser.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on écoute Fugazi, Full Disclosure. Et on écoutait Fugazi, Full Disclosure. Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est la matinale sur le 93.9 FM.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Laurent Sorel et nous parlons des familles qui campent devant la mairie du 20e. Rania, je te laisse la parole.
Oui, justement, avant cette courte pause musicale, vous commenciez à évoquer le campement de ces familles, de ces personnes sans-abri, de ces personnes fragiles sur des lieux symboliques, notamment comme on a pu le voir il y a quelques jours sur le parvis du 20e, de la mairie du 20e arrondissement de Paris.
Oui. Effectivement, alors ces familles n'y sont plus, heureusement. Il faut savoir qu'effectivement, quand les familles sont arrivées, ce sont des familles avec beaucoup de jeunes enfants qui sont ballottées de centres d'hébergement en bout de trottoir depuis des mois. Et c'est Utopia, notamment une association qui s'occupe d'eux, qui les accompagne, que ce soit sur la place de l'Hôtel de Ville ou dans une sorte de lieu où ils les logent parfois du côté de Bagnolet. Et donc là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de rendre visible justement ce qui est invisible et d'organiser un campement devant la mairie du 20e pour interpeller et l'État et la ville pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils prennent en charge ces familles.
Mmh. Oui, du coup, je sais que Utopia a l'habitude en fait de venir en aide à ces personnes. C'est vraiment une association pro-exil qui défend les personnes exilées. Mais justement, elle a été face à un manque de moyens. Elle a pas pu venir en aide à toutes ces personnes. D'où...
Il faut savoir que cette histoire, c'est un éternel recommencement. Tout à l'heure, on parlait de la nuit de la solidarité. Lors de la nuit de la solidarité, j'étais devant la mairie du 19e parce que Utopia avait organisé aussi une petite mobilisation des familles. Et là, ça s'était moins bien passé. Il y avait une mobilisation des... Les policiers ont cerclé les familles et il y a une sorte de nasse qui a été organisée. Il y avait des enfants, il faisait froid, parce qu'en janvier, il fait froid. Et c'était assez violent. Là, devant la mairie du 20e, ça a duré trop longtemps. Ça a duré 4 jours, 4 nuits, où il a fallu effectivement s'organiser. Et il faut savoir que la particularité, c'est que les familles aient dormi à même le sol, y compris sous la pluie, d'où mon appel justement à ouvrir la mairie, que j'avais fait à un moment donné sur les réseaux sociaux, et que la police nous avait prévenu qu'à la moindre tente dressée, elle évacuerait toute la place. Donc il faut savoir aussi ça. C'est-à-dire que elle dormait... à la belle étoile, si je puis dire, parce que les étoiles, on ne les voyait pas forcément beaucoup. Alors, il n'a pas fait trop mauvais au début, et puis ensuite, il y a eu de la pluie. Donc, il y avait des enfants de 4 mois, 5 mois, il y avait des femmes enceintes, et il y avait des familles, soit des femmes seules, soit des couples, avec leurs enfants. Donc, c'est ça la réalité de la rue, et c'est ça la réalité de Paris aujourd'hui.
C'est une situation difficile, mais une réalité. Ça reste la réalité. Je sais que la dernière nuit, la mairie a décidé d'ouvrir justement... sa salle de réception pour accueillir un maximum de personnes, mais ça a duré qu'une seule nuit.
Oui, alors ça a duré une nuit, et c'était le temps après de les répartir dans les gymnases. Donc les gymnases, vous comprenez qu'un gymnase, ce n'est pas fait pour ça à l'origine, mais c'est une solution d'urgence, parce que l'une des revendications qu'on a, nous, c'est que quand l'État ne fait pas son taf, et l'État ne le fait pas, eh bien il faut que la ville de Paris fasse cette mise à l'abri. Évidemment, ça coûte ce que ça coûte, mais on ne peut pas laisser des enfants à la rue, on ne peut pas laisser des familles à la rue, donc il faut qu'une ville de gauche prenne ses responsabilités et fasse ce que l'État refuse de faire, quel que soit le coût, évidemment, parce qu'il y a un coût, mais ce n'est pas possible de laisser ces gens-là à la rue.
Est-ce qu'il y a des limites dans ce processus de réhébergement de ces familles? Est-ce qu'elles vont rester, quel temps vont-elles rester dans les gymnases? Est-ce qu'elles vont être orientées vers d'autres établissements, peut-être?
Alors, le but, quand même, c'est de faire en sorte que ces familles soient hébergées dans un centre d'hébergement qui soit stable, qui soit pérenne, avec une prise en charge des services sociaux, parce qu'un gymnase n'est pas fait pour ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a une volonté de l'État de ne pas de ne pas mettre les moyens. Donc il y a une nécessité, en tout cas, pour la ville de Paris de financer probablement des centres d'hébergement pérennes, c'est-à-dire de se substituer à l'État. Ça coûte ce que ça coûte, mais on se retrouve face à un État qui se durcit, hein, qui copie les idées d'extrême droite. Et il faut savoir, parce que il faut le dire, parmi les familles qui étaient à la rue, il y avait un ou deux blancs. Hein, parce que il faut aussi dire les choses, et que c'est beaucoup des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, et que les gens le savent, l'État le sait. Et d'ailleurs, quand on a fait des vidéos, et bien même sans montrer les familles, on s'est retrouvé avec une shitstorm de fachos, qui nous expliquaient que de toute façon, si ces gens voulaient un abri, ils n'avaient qu'à rentrer chez eux, et qu'il faisait beaucoup plus chaud dans les pays du Sud. Donc pourquoi ils se retrouvaient à Paris ? Je vous épargne les autres agressions, parce que les fascistes, vous savez ce qu'ils pensent, vous savez ce qu'ils disent, donc c'est pas on n'est pas obligé de répéter leurs mots doux ici. Mais c'est une réalité qu'il faut avoir en tête, et que forcément l'État le sait.
Oui, justement, le profil, en fait, le fait qu'ils soient exilés et également leur origine, ça joue forcément sur cette situation. Il y a un manque d'envie d'aider de l'État, un manque de mise en place de services, quand on connaît ces deux facteurs.
Eh bien oui, parce que derrière, il y a le calcul cynique que si l'État les aide trop, eh bien, ça on fera venir d'autres. Parce que c'est aussi ça, et qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, le calcul des politiques, des macronistes, c'est de courir après l'extrême droite, et que donc il faut donner des gages. Et donner des gages, c'est dire que, écoutez, ces gens-là, on ne va pas dépenser des sous pour les mettre à l'abri. Évidemment, hein, ça ne va pas forcément être assumé tel quel, mais en réalité, on voit bien le problème. J'ai envie de dire que si c'était j'ai rien contre les Ukrainiens, il faut les soutenir et tout, mais quand c'était des réfugiés ukrainiens, eh bien l'État a mis les moyens. Et les familles ukrainiennes n'étaient pas à la rue, ils ne campaient pas dans les rues de Paris. Voilà, donc il faut le savoir, il faut le dire.
Est-ce que cette situation, elle a aussi un rapport avec le projet du Grand Paris ? Pendant les JO, par exemple, il y a eu beaucoup d'interventions musclées, peut-être musclées, on peut le dire, des forces policières pour justement dégager, pousser ces personnes sans abri vers la banlieue, vers hors Paris en fait.
Alors, il fallait faire place nette, mais malheureusement, ce n'est pas dû qu'aux JO. Il y a effectivement une particularité, c'est que pendant les JO, ça s'est durci, notamment sur le centre de Paris. Mais ils ont ouvert, paradoxalement, quelques centres à ce moment-là, parce qu'ils ne voulaient pas que, devant les télés du monde entier, on voit trop de familles à la rue. Mais c'est plus généralement le résultat de la gentrification parisienne. C'est-à-dire que y a de moins en moins de logements, il y a de moins en moins de centres d'hébergement. Et ça, c'est valable pour Paris, c'est valable aussi pour la proche banlieue. Il faut savoir que la nuit de la solidarité, c'est aussi en proche banlieue, c'est-à-dire c'est dans le Grand Paris. Et je crois qu'ils ont dénombré à peu près 700 personnes à la rue dans les communes du Grand Paris. Donc ça, c'est en plus de Paris. Donc c'est une réalité, et c'est une réalité qu'on connaît à différents niveaux, c'est-à-dire que les étudiants connaissent. Ils sont obligés de se loger de plus en plus loin, même si leur fac est à Paris, que les familles parisiennes connaissent, même celles qui ne sont pas à la rue, parce que vous voyez dans les logements sociaux, c'est de la suroccupation, parce que il y a l'oncle, il y a le tante, il y a la tante, il y a le cousin, parce que de toute façon on n'a pas les moyens. Et puis vous voyez des familles avec dans un deux pièces 5-6 personnes, parce que elles travaillent pourtant, mais elles n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est le résultat d'une crise du logement. C'est parce que les loyers explosent, parce que quand on cherche un logement, c'est la galère. Et puis, voilà, les gens n'ont pas de moyens. Donc, ça veut dire que ceux qui sont tout en bas de l'échelle, eh bien, ils se retrouvent, eux, à la rue. Voilà, c'est ça la réalité de la crise du logement. C'est ça quand il y a effectivement une explosion des loyers et puis il n'y a pas suffisamment de logements. Il faut savoir que dans le même temps, il y a 270 000 logements inoccupés à Paris. Voilà, c'est ça la réalité. Et qu'il y a 20 000 logements vacants depuis 2 ans. Donc, de l'autre côté, vous avez des logements vides. Et puis, vous voyez des gens à la rue. Donc, ça, c'est scandaleux. Donc, il y a une volonté politique de ne rien faire.
Est-ce qu'il y a aussi une question de changement culturel nécessaire pour parvenir, par exemple, à atteindre des objectifs de réhabilitation ?
Réhabilitation ? C'est-à-dire de loger les gens.
De loger les gens.
Oui, alors...
Notamment en impliquant d'autres acteurs parisiens ou sinon des groupes de sensibilisation, des réunions d'information sur la question du logement d'abord, grand projet du Paris, enfin du quinquennat Macron.
Ah oui, c'est celui qui est président de la République et qui avait dit qu'il y aurait zéro personne à la rue. Oui. Ça fait partie des promesses qu'il a faites. C'est vrai, j'avais oublié. Non, j'avais pas oublié, évidemment. Mais non, mais en fait, il n'y a pas de volonté de l'État. Je le répète depuis tout à l'heure, mais ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'il y ait une mobilisation de la population. Il y a des associations qui, à bout de bras, tiennent cette solidarité. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour venir en aide à ces gens. Et je tiens à dire d'ailleurs que ce qui m'a frappé pendant le moment où il y avait les familles, c'est que les habitants du 20e sont venus en masse apporter de la nourriture, apporter des couches, apporter les trucs de toilette. Enfin, il y a cette solidarité au plus près du terrain. Là où ça manque, c'est au sommet. C'est à l'Élysée, c'est à Matignon, c'est à l'Assemblée nationale, au moins du côté de la droite et de l'extrême droite. Il n'y a pas cette volonté. Voilà. Et c'est ça qui manque aujourd'hui et c'est ça qu'il faut. La population, franchement, il y a des racistes, hein, on va le dire, hein, parce que sinon, le RN n'aurait pas autant de voix, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont solidaires, mais pas l'État, pas au sommet de l'État.
Eh bien, on reste sur cette note positive. On espère qu'il y aura du changement au niveau de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Sorel, de nous avoir partagé votre témoignage.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci Laurent Sorel, merci Rania. Et tout de suite, c'est le Flash Info de Fabrice.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir, là je crois qu'on m'entend davantage. Je vous présente donc le Flash Info de ce soir et à l'ouverture du festival de toutes les Afriques du monde, je vous en parle à la fin de ce Flash Info. À la une, l'ex-président de la République française condamné définitivement. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy a été condamné par la Cour de cassation pour le financement illégal de sa campagne de présidentielle de 2012 face à François Hollande. Sa campagne a dépassé le seuil légal de financement autorisé. Il s'agit pour lui du dernier recours en droit français pour cette affaire. L'Union européenne temporise la limitation de la déforestation. 402 eurodéputés ont voté pour le report d'un an d'une loi contre la déforestation contre 250. Ce n'est pas le premier report, le premier avait eu lieu de 2024 à 2025. Une concertation entre eurodéputés et États est encore prévue, sans grand changement attendu. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest entre les mains des militaires. Demain, en Guinée-Bissau, était prévue l'annonce des résultats des élections présidentielles et législatives du dimanche 23 novembre dernier. Aujourd'hui, le chef de l'état-major de l'armée de terre a annoncé prendre le contrôle total du pays et suspendre le processus électoral. C'est le quatrième coup d'état pour le pays. Le dernier remonte au 30 novembre 2023. La capitale alsacienne commence à célébrer Noël dès aujourd'hui. La 455e édition du marché de Noël démarre aujourd'hui à Strasbourg avec l'illumination du célèbre sapin Place Kléber en début d'après-midi. La capitale alsacienne a accueilli 3,4 millions de visiteurs l'année dernière. Pour les courageuses et courageux émerveillés par les festivités alsaciennes de Noël, Strasbourg est à moins de 2 heures en train. Comptez par contre un beau billet pour y aller. Et enfin, le festival qui célèbre toutes les Afriques du monde de retour pendant un mois. La 37e édition du festival Africolor a été lancée le jeudi 6 novembre dernier. Mais les concerts débutent ce vendredi 28 novembre à Pantin et ce jusqu'au 24 décembre à Bobigny. Pantin, Bobigny, mais aussi Créteil, Nanterre ou encore Goussainville sont les villes qui accueillent tous ces concerts. Les infos sur africolor.com.
Merci Fabrice et tout de suite, on écoute Disco Line, No Broke Bass.
X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. No, I'm out here single. We'll be right back.
disco.
No broke boys, no new friends. I'm that pressure, give me my test.
C'était Disco Line de No Broke Bay sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est la chronique actu de Julie.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et je vais vous parler aujourd'hui de Zootopie 2, la suite de Zootopie 1, logiquement. Un dessin animé Disney qui se passe dans une ville ultra moderne où cohabitent les différents animaux. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, jour de sortie des nouveaux films, et la suite de ce dessin animé que j'attendais depuis des années sort enfin en salle. Alors ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien. Je ne dévoilerai même pas l'intrigue de ce deuxième film, puisque moi-même, je n'ai pas voulu la connaître pour garder la surprise. Est-ce que je suis en train de faire une chronique sur un film que je n'ai même pas vu ? Oui. Suis-je légitime à le faire ? Pas plus que Sarkozy qui écrit « Journal d'un prisonnier ». La légitimité en 2025, on peut la prendre où on veut. Donc non, je n'ai pas encore vu le film. J'en trépigne d'impatience, mais je voulais surtout partager avec vous mon enthousiasme, une joie sincère, authentique, voire enfantine, d'aller voir un dessin animé. Oui, j'ose le dire, mes Disney préférés ne viennent pas de la nostalgie de l'enfance. Ce sont des films que j'ai vus après mes 18 ans, à cet âge qualifié terriblement de « adulte », où on est censé être responsable, sérieux, raisonnable, ambitieux, respectable, ennuyeux. En bref, il faut avoir des goûts un peu plus évolués que ces films conçus pour les enfants. Pourtant, plus on est grand, mieux on les apprécie, ces films. L'intrigue, la qualité de l'animation, le second degré et les critiques sociétales qu'ils dressent. Dans Zootopie 1, on nous montrait comment les politiques appliquent le dicton « diviser pour mieux régner », comment manipuler les foules et instrumentaliser la peur pour faire régner la haine. Et c'est d'une résonance avec l'actualité politique indéniable. Mais ces messages, ils sont portés par des histoires, avec des couleurs vives, des animaux qui parlent, une atmosphère joyeuse. Et franchement, ça fait du bien. Alors oui, j'aime les dessins animés. J'aime quand il n'y a pas de gros mots. J'aime quand il n'y a pas de violence. J'aime quand ça finit bien. Quand le méchant perd, quand les gentils gagnent, et qu'à la fin, on a le sourire aux lèvres. Mais j'aime aussi cette nouvelle génération de films qui montre que la vie n'est pas si binaire, que les gentils et les méchants ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Dans une actualité qu'on ne peut plus anxiogène, ça fait du bien de ramener de la couleur, de ramener de la douceur, de passer par le monde de l'imaginaire pour réfléchir la réalité. On attribue les dessins animés à l'enfance, comme s'il fallait les rejeter, s'en éloigner, changer, alors que c'est le but absolu, rester enfant. Garder des yeux qui brillent, qui s'amusent de tout, qui pétillent. On a besoin de magie, de fabriquer nos rêves dans le quotidien, de transformer nos salons en cabanes géantes et d'organiser des goûters d'anniversaire même si c'est pas le jour de notre anniversaire. Grandir, c'est avoir les moyens logistiques et l'interdiction des parents en moins pour réaliser ces idées insensées. Il s'agit alors de ne pas les oublier, de continuer de rêver, d'imaginer, de s'émerveiller, car il n'y a que en restant motivé qu'on peut continuer à lutter.
Merci Julie, et je rappelle que Zootopie 2 est sorti aujourd'hui au cinéma, et moi aussi je vais aller le voir et j'en ai pas honte. Et maintenant, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, nous recevons Havas Verden qui sera au Théâtre du Chariot en décembre pour une série de concerts théâtraux, une épopée musicale électropop audacieuse sur la quête de soi. Elle sera interviewée par Violette.
Havas Verden, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci de m'accueillir, je suis ravie.
Vous êtes artiste, chanteuse, et donc vous posez vos valises au Théâtre du Chariot les 1er, 2, 8, 9 et 15 décembre prochains pour une série de concerts théâtraux d'un univers musical merveilleux. Mais vous êtes titulaire d'un Master 2 d'Histoire du cinéma. Vous avez suivi également une formation donc théâtrale, les cours Florent, puis le Conservatoire du 16e arrondissement. En quoi la musique s'inscrit-elle pour vous dans la continuité de votre parcours avec le théâtre notamment ?
Alors les deux sont arrivés un peu en même temps quand j'étais en école de théâtre. Il se trouve que je me suis retrouvée, je prenais des cours de chant plus ou moins par hasard, je me suis retrouvée à rejoindre, à créer un groupe de rock qui était un peu punk noise à l'époque. Et ça s'est fait assez naturellement. Et en cours de théâtre, on travaillait aussi sur la chanson réaliste. Et c'est là que je me suis mise à écrire des chansons, en fait. C'est là que le goût de l'écriture, du rythme verbal est également venu. Et le projet musical est né d'abord pour la scène.
D'accord. Et donc, justement, j'allais vous demander en quoi également votre expérience au sein du groupe de rock, donc de Lipstick Standard, et aussi au sein du club de la vie inimitable, vous influence-t-elle encore aujourd'hui dans votre travail ?
C'est là que j'ai un peu commencé à créer mon univers. C'est-à-dire qu'à la fois, on avait ce collectif qui s'appelait le club de la vie inimitable, d'ailleurs avec certaines personnes qui étaient à l'époque à Radio Campus. On a créé un cabaret, et c'est dans ce cabaret que j'ai commencé, moi, à mettre en scène et à chanter mes chansons avec des costumes que je détournais. Je chantais d'abord a cappella. Ensuite, on a travaillé avec un musicien sur la composition des premiers titres. Et aussi avec le groupe de rock, c'est là que j'ai fait mes premières scènes, que j'ai commencé à être chanteuse, quoi.
D'accord. En parlant d'expérience et d'influence, j'aimerais vous demander avec quelle figure d'artiste et notamment de femme avez-vous grandi ? Quelles sont celles qui vous ont le plus appris et avec qui peut-être encore aujourd'hui vous...
Musical, il y a eu beaucoup d'inspiration. Enfin, les femmes comme la chanteuse Camille m'a pas mal inspirée aussi dans sa liberté, dans son album Le Fil. Une liberté totale qui reste quand même dans un cadre, mais avec un univers assez puissant. Évidemment, il y avait Björk aussi. Il y avait aussi les Rita Mitsouko, enfin des trucs assez des classiques, mais qui ont des univers forts chacune. Et avec ce groupe de rock, j'ai quand même découvert le côté un peu punk que je connaissais pas du tout, vers le Sonic Youth, vers des groupes Young Marble Giants, d'autres groupes qui sont venus quand même, et aussi la scène techno. Il y a eu aussi la scène techno, mais les femmes, je dirais, Catherine Ringer, Camille, Björk, et puis il y en a plein d'autres.
D'accord. Et est-ce que ce sont toutes ces femmes qui vous ont donné envie de chanter, de jouer? Quand vous regardez en arrière, quel a été le moment déclencheur?
Ça a été toutes ces femmes et aussi mon parcours. Je pense que j'ai eu envie de raconter des choses sur les choses que je traversais dans ma vie aussi. Une déconstruction aussi des cases et des codes dans lesquels je vivais et auxquels je croyais correspondre. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me... que je découvre autrement comment j'étais. Donc oui, mais c'est aussi mon parcours de femme qui me donne envie aussi de raconter ça à d'autres femmes et à d'autres hommes, de je vais pas raconter le spectacle, mais de comment exister sans se mettre dans une case.
D'accord. Et justement, j'allais vous demander également aussi, pensez-vous qu'il existe un lien entre la chanson notamment et l'exploration de soi, puisque votre spectacle explore des émotions profondes et intimes.
Oui, je pense. Après, on n'est pas obligé. Si on ne chante pas, on peut aussi s'explorer autrement. Mais déjà, trouver sa voix, autant dans la parole, et puis avoir l'espace de la voix et de notre voix en tant que femme, ça évolue un petit peu aujourd'hui. Il y a encore du taf. Mais aussi, trouver sa voix. Je sais qu'en chant, il m'a fallu du temps pour aussi effeuiller les masques de voix, et tout en gardant la possibilité d'aller vers une voix lyrique, une voix chuchotée, une voix de rock, mais tout le travail vocal aussi te permet de trouver ton chant, et c'est pas toujours évident. Parfois c'est extérieur, et avec les bonnes matières, les bons profs aussi, tu te rapproches de toi.
Et justement, parlons de votre voix. Comment décririez-vous le rapport que vous entretenez avec cette voix? Est-ce que c'est un instrument, un refuge, un lieu d'expérimentation, ou les trois à la fois?
Je pense que déjà, j'ai jamais pensé au départ, enfin si, apparemment quand j'avais 3 ans, j'ai dit que je voulais être chanteuse d'opéra et de rock. Dixit, mes parents, je n'en ai pas le souvenir. Mais bon, dans le récit de soi, ça se raconte. Mais ça, je ne me suis jamais dit à 20 ans, je veux être chanteuse. C'est venu un peu de soi. Et en même temps, j'ai oublié la question. Je ne sais pas ce que vous disiez.
Le rapport que vous entretenez à la voix.
Ouais, bah, je sais pas trop. Non, bah, c'est une matière pour moi, c'est un moyen de raconter plein de choses, mais la forme est hybride, c'est-à-dire que je passe par la voix, mais il y a aussi du théâtre, il y a de la musique, et en fait, c'est plus, j'ai envie de raconter quelque chose, ça peut utiliser n'importe quel médium et un art, tout d'un coup, je sais pas, je vais avoir envie d'écrire un livre, je l'ai pas fait, mais j'ai déjà eu envie. C'est pas, je fais que du chant, je fais que du chant, et c'est une manière de raconter ce que j'ai envie de dire, quoi. C'est un, ouais, c'est un médium.
Et justement, quand on crée un univers aussi personnel que le vôtre, comment fait-on pour décider ce que l'on garde pour soi et ce que l'on offre au public?
C'est une bonne question. Non, ça s'est fait assez, ceci dit, naturellement, dans le sens que j'ai jamais eu envie de raconter ma vie littéralement. Et d'ailleurs, ça peut m'emmerder assez facilement les chanteurs ou les chanteuses qui sont assez littéraux, même si c'est bien que ça existe. Mais il y a toujours un écart pour moi entre quand même passer par l'intime. Ce que je raconte dans mon spectacle, c'est intime, mais sans que j'ai besoin de dire à 12 ans, il m'est arrivé ça, si ça. Et c'est comme ça pour moi que tu peux toucher la personne en face. C'est-à-dire que c'est universel, tout en parlant de quelque chose de vraiment nécessaire en soi.
Dans vos chansons, vous évoquez également des références mythologiques. Donc, je fais référence donc, à votre EP de 2023, et notamment la figure de Circé, à qui vous dédiez un titre. Et pensez-vous qu'il y ait un peu de cette magicienne en vous?
Alors, ce serait bien présomptueux de ma part, mais en tout cas, c'est ce que j'aime chercher, la magie et le détournement aussi, surprendre le public, le détournement des objets, des costumes, et aussi à travers mon spectacle, il y a plein de figures féminines qui sont des versions de moi ou des figures comme Circé, sorcière, magicienne, dont j'ai croisé la route à travers des spectacles dans lesquels j'ai joué et tout ça, qui m'ont inspirée. C'est un hommage à la métamorphose et à la quête de qui sommes-nous un peu à travers un amour perdu, quoi.
D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas pour
merci
d'être
à vous.
Venue. Et pour votre attention.
Merci Ava Zerden, merci Violette. Et on va écouter tout de suite Fontaine d'essai, Big Shot.
was watching how you spread empty scorn. Forget their name. Nothing scratches off your blame.
C'était Fontaine DC Big Shot sur Radio Campus Paris. Et pour bien terminer cette émission, je suis avec Arthur qui va nous parler d'idées cadeaux de Noël. Bonjour Arthur.
Bonjour, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025 et dans un mois, c'est Noël. Et oui, plus que 29 dodo, encore 29 petites nuits avant de retrouver sa famille pour un repas qui mêle éclats de rire frôlant l'hypocrisie, alcool qui coule à flot et débats politiques animés. Et oui, dans 29 dodo, on recrée à la maison l'ambiance de l'émission Touche pas à mon poste. Dans 29 dodo, à 23h45 précisément, on pourra plus blairer notre oncle propos raciste, mais qui n'est pas vraiment raciste parce qu'il a un ami qui a bien aimé le dernier album d'Anna Kamura, pardon. On se retiendra de ne pas jeter des œufs de limpe à la gueule de notre beau-frère qui nous jure pour la 10e fois de la soirée que l'avenir de la finance c'est le bitcoin, alors qu'on a envie de lui répondre que si l'avenir du monde c'est de l'argent imaginaire, mais alors la ZAD des Landes ça doit être considéré comme le futur de Wall Street. Dans 29 dodo, on supporte plus notre famille. Dans 29 dodo, perdu entre les odeurs de bûche de chez Picard et le monologue de notre sœur qui nous assure que son fils est forcément HPI alors que le gamin est en train de bouffer du papier bulle, on se surprend à penser que, finalement, on comprend un peu Xavier Dupont de Ligonnès. Mais allez, on arrête de broyer du noir parce qu'avant ça, c'est la course au cadeau. Avec toujours cette même question qui nous hante toutes et tous pendant le mois de décembre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir de nouveau à nos proches? Pas de panique, j'ai la réponse. Cette année, pour un Noël réussi en famille, offrez le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Le journal d'un prisonnier, c'est le cadeau qui plaira à chacun et chacune de 7 à 77 ans. Vous devez offrir un joli présent à votre neveu de 8 ans, super nouvelle, le journal d'un prisonnier c'est près de 35 pages de coloriage, parce qu'à un moment donné, quand t'as fait 2 semaines en prison, t'as pas grand chose à raconter, faut meubler un peu. 35 pages qui t'offrent la possibilité notamment de colorier la carte de l'Afrique. Oh, chelou, y a pas la Libye. Est-ce que tu arriveras à trouver la bonne couleur de crayon pour colorier Brice Hortefeu? Attention, c'est pas rose pâle, c'est rose porc. Oh tiens, à la page 12, pour celles et ceux qui savent lire et écrire, on apprend, sans faute d'orthographe, à écrire la phrase suivante. C'est la faute des juges. Oh, mais c'est vrai que c'est super simple. Attention, le journal d'un prisonnier, c'est aussi pour les adultes. Vous devez offrir un cadeau à votre oncle fan d'histoire moderne, mais trop génial. Dans le livre de Sarkozy, il y a 20 pages où il se compare à Nelson Mandela. L'occasion de plonger dans l'histoire afin de se rappeler qui était cet activiste enfermé pour ses idées, victime d'un complot et marié à Carla Bruni. En parlant d'elle, comme ces disques ne se vendent plus depuis que l'être humain est muni de l'ouïe et du sens de l'objectivité, quand vous achetez un exemplaire du journal du prisonnier, recevez 45 CD de son plus grand succès, à savoir... Putain, c'est quoi ces hits à elle déjà? Bon, en tout cas, vous pourrez répondre à cette question, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oh, non! Vous devez offrir un cadeau à votre père, fan de la préhistoire et les dinosaures? Aucun souci, le livre a été préfacé par les Balkany, l'occasion de se rappeler que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs habits de biens sociaux. Et pour achever de vous convaincre que le journal d'un prisonnier, c'est LE cadeau à faire pour Noël, comment passer à côté du fait que cet ouvrage est un réel atout pour votre intérieur? Eh oui, puisque Sarko a globalement rien brûlé en prison, il nous a pondu un bouquin de même pas 100 pages, et ça, c'est un véritable point fort pour la vie de votre maison. Une table bancale, une étagère qui penche, munissez-vous de ce livre et foutez-moi ce ramassis de conneries sous vos meubles. Voilà, c'était l'astuce cadeau de la semaine pour un Noël en famille réussi. Rendez-vous de la semaine prochaine pour une nouvelle idée cadeau. On parlera d'un autre clébard, à savoir Harry Habitant, qui sort un livre intitulé « Mes victimes, je leur pardonne et puis je les emmerde bien ». C'est apparaître aux éditions Depardieu, et puis on a hâte de vous en parler.
Eh bien, merci beaucoup Arthur pour cette idée cadeau. Sur, d'ailleurs, on vous offrira le livre sur Radio Campus Paris dans la matinale. Non, c'est pas vrai. Non, c'est
pas vrai.
Et donc la matinale, eh bien, elle se termine maintenant. On arrive au bout de la matinale. Et donc merci à Laurent Sorel. Merci à Rania pour l'interview, merci à Ava Zerden ainsi qu'à Violette qui nous a présenté le Zoom. Merci à Fabrice pour le Flash Info, merci à Julie et Arthur pardon, pour leur chronique. Merci à Aude et Jeanne pour la coordination de conception de cette matinale, je n'ai pas oublié cette fois-ci. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9 FM.